I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vas-y, tu peux refaire sonner ta voix nasillarde?
Oui, je fais sonner ma voix nasillarde.
Ok, tu peux faire.
Est-ce que c'est pareil comme ça ou comme ça?
Non, c'est pareil.
C'est pareil.
Ok,
cool.
Est-ce que tu peux faire des vocalises pour le.
Des vocalises?
Ouais.
C'est quoi? C'est genre. La 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 la.
Voilà, c'était ça.
La 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 la.
Ok, bah c'est bon, ça sonne très bien et puis ça sera mis dans le.
Ok, cool.
Dans le début de l'émission. Donc, bonjour à tous ceux qui écoutent. Si vous êtes plus de 1, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, j'interview Boris. Boris, c'est le mec qui m'a appris à coder et qui apprend à l'Europe entière à coder un peu. Donc, Boris, salut.
Salut, Antonin.
Très content de te revoir.
Bah, pareil.
T'as vu, je commence un peu comme un.
Comme un vrai chroniqueur. Comme un... Il y a 10 ans d'expérience.
Non, mais Boris, donc ça fait 2 ans que le wagon existe?
En vérité, ça fait 3 ans. Un peu plus de 2 ans qu'on fait des promotions. Ça fait 3 ans que l'aventure a démarré, quoi.
Ça, t'as vu, c'est le non-professionnalisme du podcast. Ouais,
c'est parfait.
Ok, est-ce que tu veux me parler de comment ça a commencé le wagon? C'était quoi le premier jour du wagon?
Il n'y a pas vraiment de premier jour du wagon, en fait. Enfin, ça s'est fait un peu progressivement. Moi, je bossais dans une salle de marché il y a assez longtemps maintenant, il y a peut-être 6 ans. Et j'ai quitté la salle de marché avec l'envie de monter un projet entrepreneurial. Et je bossais sur plein de projets web d'à côté avec des amis qui étaient tous dans la tech. Et je me suis mis, et du coup, j'ai quitté ma banque. Je bossais chez HSBC. J'ai quitté cette banque pour travailler sur un projet. Et au départ, c'était pas du tout le wagon. Au départ, c'était un calendrier qui connectait Facebook, Google, qui était exactement en fait Sunrise, mais en beaucoup moins bien à l'époque, avec beaucoup moins de maturité. Et j'ai commencé à bosser sur ça avec un pote qui ensuite est parti dans la Silicon Valley parce qu'il a été embauché chez Instacart. Et à l'époque, avec mon frère, on bossait un peu tous les trois sur ce projet-là. C'est aussi l'époque où il y a Pierre qui a lancé Sunrise, qui a commencé à vraiment travailler sérieusement sur Sunrise. Et du coup, on s'est dit qu'on voulait travailler sur un autre projet. Moi, c'était aussi l'occasion d'apprendre le code de façon un peu plus sérieuse, de bosser sur ce premier projet d'app. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on.
Moi, j'ai toujours. Tu savais déjà coder à l'époque ou tu savais pas très bien coder?
En fait, j'avais fait du code en banque, mais plus de l'algorithmique ou des trucs comme ça. J'avais jamais fait de web. Et j'avais appris le web avec tous ces amis qui étaient dans la tech, qui bossaient pas dans la banque et avec lesquels je faisais des projets d'à côté. Et du coup, bosser sur un premier projet, c'était une façon. Je savais pas forcément si ça allait en faire une $1 billion compagnie, mais en tout cas, moi, l'idée derrière, c'était d'un peu de prendre du skills sur des technologies web et parce que aussi derrière, j'avais aussi la volonté de pouvoir réexpliquer ça à des gens. Donc c'était un peu ça l'idée. Et du coup, avec mon frère, on est parti à la campagne un week-end en Touraine et on réfléchissait à ce qu'on pouvait faire. Moi, j'avais un ami qui faisait Dev Bootcamp. Donc Dev Bootcamp, pour ceux qui connaissent pas les bootcamps, c'est le premier bootcamp américain qui a démarré en 2012. Et mon pote, c'est un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Guillaume, a fait la deuxième promotion de Dev Bootcamp. Et du coup, il m'a raconté que c'était un truc de fou. Il s'est fait embaucher en tant que développeur en sortant de ce truc-là. Moi, j'avais un bon réseau de mecs qui connaissaient la tech à Paris. J'ai toujours aimé enseigner. Donc, on se dit avec mon frère, bon, vas-y, on fait la même chose en l'adaptant, en faisant ça pour des entrepreneurs à Paris. Et puis, voilà, ça manque, quoi.
Ça fait plusieurs fois que tu parles de ton frère, donc Romain. Ouais. Vous aviez toujours bossé ensemble? Comment s'est passé le fait de commencer un truc ensemble?
Non, en vrai, on a jamais vraiment bossé ensemble. C'était juste que, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Quand t'as un peu la fibre entrepreneuriale, t'as des potes avec qui tu passes ton temps. Quand t'as un boulot à réinventer un peu le monde, à te poser à des terrasses, à te parler de plein d'idées et à faire semblant que tu vas te lancer alors que tu te lances jamais. Et c'est un truc qu'on faisait avec mon frère et une bande de potes. Et mon frère était un des mecs de cette bande-là, quoi.
Et qu'est-ce qui vous a justement fait franchir le cap de commencer? Pourquoi toi t'as quitté la banque à un moment?
En fait, ça faisait très longtemps que je voulais me barrer, quoi. Ça faisait, je pense qu'au bout, je suis resté 3 ans et au bout d'un an et demi, j'avais déjà des fourmis, envie de faire autre chose. C'est juste que c'est ma personnalité comme ça, quoi. Je mature un truc jusqu'à ce que c'est comme une cocotte minute. Après, j'en peux plus et donc c'était naturel, quoi. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire. J'ai manqué de courage. Et en fait, j'ai attendu jusqu'à ce qu'en fait, ce soit plus possible pour moi de continuer à faire ce boulot, quoi. J'avais vraiment envie de lancer quelque chose d'autre.
D'accord. Et donc, ça risque de faire pareil avec le wagon, la cocotte minute.
En fait, ce qui me manquait, moi, dans la banque, c'était, hormis le fait que ça donne aucun regard sur, tu vois, ce qui se passe dans le monde, que c'est un truc d'expert, parce qu'une salle de marché, c'est quand même un truc où il y a des ingénieurs de grandes écoles qui font des trucs très, très spécialisés. Donc, tu sais pas trop ce que tu vas en faire ce que tu peux en faire ensuite. L'autre truc qui me manquait, c'est que tu touches à un seul domaine. Alors que quand tu fais du web, tu vas toucher à de l'ingénierie, tu vas faire de l'éditorial, tu vas faire du design, de l'UX. En fait, tu touches à plein de trucs. Et moi, en fait, dans le wagon, j'ai ça. Plus l'expérience d'une boîte qui se développe dans des villes européennes. Donc, pour l'instant, j'ai pas de lassitude, quoi. Alors que, vraiment, clairement, au bout d'un an et demi en banque, je m'ennuyais clairement, quoi.
Et du coup, vous avez commencé à faire quoi? À donner des cours de code aux gens? Vous avez ramené des gens chez vous ou...
Ouais, alors au tout d'abord, du coup...
parce que c'est une question intéressante.
C'était Mathieu, Romain et moi. Surtout Romain et moi dans l'opérationnel, parce que Mathieu avait encore un boulot à l'époque. Mais Mathieu nous suivait pour... moi, il m'aidait à mettre, je sais pas, le premier site vitrine en place, à faire des premiers workshops. Mais très vite, ensuite, il est parti à San Francisco parce qu'il était embauché en tant que développeur chez Instacart. Mais au tout début, c'était du coup Romain et moi, et on est parti sur un truc simple. On faisait des workshops pour tous les accélérateurs. Donc on est allé former le camping. On formait les CEO du camping à la technique. On faisait des petits cours de front-end pour les aider aussi à mieux bosser avec leur CTO et aussi pour les aider à faire eux-mêmes des choses quand ils pouvaient, quoi. C'était ça l'idée. Donc on a fait des amphis de code. Moi, j'ai fait un amphi à l'USCP pour un truc qui s'appelait l'Eldorado, qui était une fête de l'entrepreneuriat où il y avait 120 mecs, un amphi de 120 mecs qui faisaient tous du HTML, où tu devais leur faire leur page, leur landing page en HTML, en CSS. Donc on faisait plein de trucs comme ça, soit événementiel, et petit à petit, ces workshops du soir, on les a un peu formalisés. Ça nous permettait de tester des profs aussi. Donc on a testé pas mal de profs comme ça, de découvrir des pédagogies, et petit à petit, on les a fait payer. Donc c'était pas grand-chose, hein. C'était genre 40 balles ou 50 balles les trois heures. Et le but, c'était de convertir des mecs derrière sur le programme de 2 mois.
Et cette phase de test, du coup, elle a pris combien de temps avant que vous puissiez vraiment formaliser le process?
Alors, avant qu'on lance le premier batch dans lequel il y avait 16 élèves qui étaient au NUMA en janvier 2014, on a mis, je pense, 7 mois, un truc comme ça, pour recruter 16 mecs. Donc, ça peut sembler un truc absurde, quoi. Enfin, quand on parle de boîtes qui scale et qui ont des millions d'utilisateurs, nous, c'est un peu ridicule, on peut dire. C'est 7 mois pour 16 mecs, sachant que le premier programme, il coûtait pas grand chose, hein, par rapport à, et c'était aussi parce que c'était le premier programme, donc on itérait dessus, on n'était pas sûr de notre pédagogie. Moi, j'avais passé 2 mois à mutinerie à l'époque à vraiment drafter le premier curriculum du wagon. Et voilà, effectivement, mais après, on a mis 7 mois pour 16 mecs, c'est ça le truc.
Et tu viens de parler le fait que ça fait pas vraiment startup qui scale, etc. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de scaler sa startup à tout prix? Ou d'avoir le modèle parce que vous, par exemple, vous avez pas levé de fonds, vous êtes complètement bootstrappé?
Ouais.
Et qu'est-ce que tu penses de ça, justement?
Nous, c'est vrai qu'on a... Enfin, le scale d'un bootcamp, de toute façon, c'est des classes de 20 élèves, donc ça veut dire... là, on est dans 12 villes en Europe, avec des classes de 20 élèves, on peut dire que c'est un scale, quoi. Ça dépend de ton produit. Nous, on a un produit qui est très prenant, c'est 2 mois de la vie d'une personne, c'est assez cher. Donc ça dépend. Et c'est un produit qui est physique, avec certes des plateformes technologiques qu'on a mis en place, mais c'est un produit physique. Donc je sais pas, ouais, ce que ça veut dire le scale, si c'est le nombre d'utilisateurs. Dans ce cas, nous, on s'inscrit pas là-dedans. Mais ce que je disais juste par rapport au lancement, c'est qu'on a une stratégie très pragmatique de faire des workshops, d'engager des gens en faisant vraiment que du présentiel. Et on n'a pas fait de pub Facebook, de gros hacking ou de je sais pas quoi, pour essayer de toucher plus, pour essayer d'avoir un reach et de toucher plus de personnes, quoi.
Ouais, c'est intéressant. Finalement, vous avez validé le business d'abord petit à petit avec des vrais clients qui payaient.
Ouais, qui payaient pour des cours du soir. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a rencontré Sébastien, qui est le CTO du Wagon. Mmh. C'est qu'il a, moi je l'avais rencontré à un meet-up de Ruby. Il a proposé naturellement de faire un workshop dans les workshops payants qu'on faisait le soir sur Git et GitHub, qui sont des systèmes de versionning pour des développeurs. Et il a fait un workshop nickel qui était assez impressionnant. Et du coup, ça m'a permis moi de lui proposer aussi de venir tester sur la première classe qu'on a fait au Numa, de tester un peu le programme en tant que prof. Et finalement aussi, c'est ce qui fait que aujourd'hui on n'aurait pas trouvé Seb aussi si on n'avait pas fait ces trucs-là.
Mais pourquoi finalement pourquoi finalement les gens viennent faire le Wagon en fait?
Bah, les gens viennent faire. Alors il y a deux. En fait, nous, ce qu'on apprend, c'est un savoir-faire, c'est-à-dire savoir coder un produit web. Ça, c'est le savoir-faire qu'on transmet. Il y a des gens qui viennent le faire pour trouver des boulots de développeurs, mais c'est pas forcément la majorité des gens qui font le Wagon. Il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui viennent le faire pour être capables eux-mêmes de prototyper des applications ou derrière de savoir collaborer une fois qu'ils recrutent un mec un peu plus senior dans l'équipe technique, pouvoir collaborer bien avec lui en connaissant les pratiques de travail et ce genre de choses. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de gens d'école de commerce, et il y a le mec qui sort d'école qui se dit quel syndrome du « je sais rien faire ». Je viens de finir.
Moi.
Voilà. Donc ça, c'est un syndrome qu'on a tous eu en sortant d'école.
Que t'avais toi aussi en sortant d'école.
Ouais, que j'avais aussi, parce que même si tu fais une école d'ingénieur, moi j'ai fait une école d'ingénieur généraliste, et j'étais à Centrale, j'ai touché à plein de trucs, mais tu fais un peu d'électronique, un peu de physique quantique, un peu de ceci, un peu de cela, et au final, t'as pas l'impression d'avoir de l'expertise. Même au niveau outils, tu fais comme les mecs de école de commerce, t'écris suite Excel, suite Office sur ton CV, et t'as l'impression que tu maîtrises pas grand chose, quoi.
Ouais, surtout que c'est pas facile de maîtriser la suite Office à fond non plus.
Ouais, c'est pas évident.
Moi, j'avais marqué PowerPoint, Excel et Microsoft.
Et après, quand on pose des questions sur les tableaux croisés dynamiques.
Ouais, voilà, c'est ça. Ou comment bouger des trucs dans PowerPoint. Hein. Et là, c'est le moment où je dis
Du coup, c'est le moment où je bois mon café.
Ouais, t'as raison. C'est un bon moment pour boire son café. C'est peut-être le moment que je cutterai au montage du truc aussi. Ouais, j'avais une question par rapport à... J'ai lu un des articles que t'as écrit et que t'as publié sur Internet, et où tu dis justement que vous apprenez un peu aux élèves à retrouver une approche incrémentale qu'ils auraient perdu à force d'être assaillis de théories.
Ouais, bah ça c'est le truc qui est bien avec le code. C'est que dans ta formation en France, t'as tendance à toujours commencer par la théorie et ensuite essayer de l'appliquer. Et je pense que les mecs qui font du conseil, par exemple, du consulting, sont les pros pour essayer de faire des, tu vois, des, c'est pas comment, SWOT.
Ouais.
Force, faiblesse, menace. Enfin, des grands diagrammes sur plein de choses, sur les forces, faiblesses, opportunités, sur l'état de la concurrence, sur des études de marché. Et ça, c'est un peu, ça se retrouve dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la vision old school de l'entrepreneuriat où tu fais des grandes études de marché, tu valides bien ton business model, tu fais des tableaux Excel pour faire des prévisions de cash flow qui se réaliseront jamais, ce genre de choses. Donc c'est faire tout un tas de trucs en amont. Et là, le code, ça te redonne une approche très naïve qui est, ok, bah, je commence à créer quelque chose, qui marche. Donc ouais, j'ai des bugs, je les corrige, j'essaie d'avoir un premier truc qui est utilisable, et du coup c'est, je fais pas des plans en 8 bandes, j'oublie ce côté, je vais essayer de tout prévoir dès le départ, quoi.
Ouais, on réapprend un peu
apprendre à faire des trucs simples et à faire des trucs aussi très tu réapprends aussi à être pragmatique, en fait, parce que le code c'est très pragmatique, quoi. Tu construis un truc qui va construis un produit, une application qui va être utilisée par des gens, donc c'est très tu peux pas bullshiter, quoi. C'est pas un,
et puis finalement,
c'est pas un PowerPoint, c'est pas un tableau Excel.
Finalement, moi j'ai vraiment eu le sentiment en finissant mes études de pas avoir appris des choses très très pratiques à l'école.
Ouais.
Et c'est pour ça que le Wagon c'était intéressant, c'est parce qu'on apprenait quelque chose de pratique qu'on pouvait vraiment faire dans la vraie vie. Est-ce que toi t'as eu le sentiment que ça manquait aussi dans tes études d'ingé de pas savoir faire des choses
Ouais, après je pense pas que ce soit la promesse des grandes écoles ou même des, enfin que ce soit aussi des universités, hein, je pense que la promesse c'est d'apprendre à penser, quoi. C'est un peu moi ce qu'on me disait quand j'étais en école, c'est d'apprendre à travailler, avoir une bonne méthodologie de travail et à penser, et on te dit pas qu'on va forcément t'apprendre des choses qui servent, quoi, des choses pratiques. Moi, l'idée de mon école, j'ai l'impression que c'était de me faire toucher à plein de choses pour essayer de me donner une vocation. Sauf que pour moi, la vocation, elle vient quand tu plonges un peu plus profondément dans un sujet, quoi. Du coup, c'est moi pour moi ça me paraît un peu bizarre. Par exemple, j'aurais bien aimé qu'en 3 ans d'école, je fasse que des bootcamps de 2 mois où je plongeais dans un sujet.
Ouais.
Et là, je serais un pro en cuisine japonaise, je ferais du parachutisme. Tu vois, je serais James Bond aujourd'hui si j'avais fait ça quoi pendant 3 ans.
Ouais, c'est ça le problème parce qu'on reste beaucoup en surface finalement. Alors que j'ai l'impression qu'il faut faire des choses de manière très intense pendant une période définie de temps, tu vois.
Ouais, bah c'est exactement le modèle du wagon. Mais t'as le même modèle quand t'es à l'école. Tu fais, t'as 2 heures de géographie, ensuite tu switches, tu pars en classe de dessin, tu fais des gribouillages, ensuite tu switches, tu vas faire 2 heures de mathématiques. C'est un modèle où tu touches à plein de choses, mais le modèle bootcamp, c'est dire, je consacre 2 mois, une période très, très, très intense sur un sujet, j'y vais à fond. Et je pense que ça te marque bien plus, quoi.
Ouais, finalement, parce que si tu passais 2 ou 3 mois à dessiner comme un dingue à l'école,
bah ouais.
Au moins tu saurais à la fin des 3 mois si t'as envie de dessiner ou si t'aimes pas dessiner ou si t'es bon ou pas bon.
Ouais, et après, je pense que ça a des risques. Enfin, c'est un truc qui se teste, mais je pense que.
Ouais, si t'envoies tout le monde dessiner pendant 3 mois.
Exactement, je sais pas si c'est ce qui se passe.
Ouais, mais parce que il y a aussi, une vraie question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sortent d'école ou des étudiants qui ont finalement pas énormément de visibilité sur ce qui se fait et qui savent pas exactement comment ils vont s'orienter, ce qu'ils aiment faire dans la vie, ce qu'ils vont faire. Tu vois, on parle souvent de quelle est ta passion. Alors moi, je sais pas s'il faut avoir une passion, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver quelque chose qui les intéresse vraiment.
Moi, mon avis, c'est qu'il faut avoir atteint un certain degré d'expertise pour savoir si quelque chose te plaît vraiment, quoi. Avant, c'est superficiel. Ça se trouve, moi, par exemple, j'aimais pas l'électronique du tout, ou j'aimais pas la chimie. Mais si ça se trouve, si j'avais fait vraiment de la chimie, j'avais des potes dans d'autres classes qui me disaient qu'ils avaient des profs de chimie qui étaient géniaux. Alors, c'est pas des mecs qui fabriquaient des drogues ou quoi que ce soit, mais c'est des mecs qui pouvaient faire des trucs de dingue parce qu'ils avaient ils étaient très forts en chimie. Et ça se trouve, si je faisais 2 mois de chimie avec des profs passionnés et je faisais des trucs très pratiques, je kifferais la chimie, je sais pas.
Alors justement, t'as parlé des profs et finalement, on sait tous que c'est, on apprend beaucoup mieux quand on a un bon prof.
Ouais.
C'est quoi un peu vos manières d'enseigner qui diffèrent de l'enseignement traditionnel au wagon?
Dans la façon de.
Dans je pense que ouais. Façon de donner des cours, ouais.
Ouais, je. En fait, un cours de code. Hein. Enfin, nous, les cours de code qu'on fait, c'est principalement un développeur qui va parler d'un sujet et qui dès le démarrage de son cours va projeter son ordinateur sur un écran et coder des petits programmes en expliquant ce qu'il fait, quoi. Donc c'est très entre guillemets, c'est très vivant à regarder parce que tu regardes pas quelqu'un t'expliquer des concepts, tu regardes quelqu'un écrire un programme, le lancer, voir ce qu'il y a comme résultat, écrire un petit programme de jeu ou quelque chose et t'expliquer les concepts derrière. En fait, c'est très dynamique comme façon de d'enseigner. T'as pas de slide statique, pas quelqu'un qui t'explique le code, t'as quelqu'un qui te montre et qui commente le code en le faisant, quoi. Et du coup, ça, je pense que c'est un truc qui est assez différent dans la façon traditionnelle d'enseigner le code. Moi, quand j'ai eu des cours de code en école, c'était, on va parler de la programmation orientée objet, qu'est-ce qu'une classe, et puis des slides sur une classe, une instance, blablabla. Qu'est-ce qu'une boucle? Alors que nous, c'est pas qu'est-ce qu'une boucle, c'est bon, on va boucler sur les Beatles et puis on va faire chanter les Beatles, j'en sais rien, ça va être un peu, on va faire un programme qui fait quelque chose et on va expliquer les concepts derrière.
Alors moi j'ai essayé des milliers vraiment de ressources pour apprendre à coder avant de venir au wagon. Ça a commencé quand j'étais à San Francisco, je suis allé sur Code Academy, je suis allé sur Code School, je suis allé sur tous les sites et à chaque fois finalement j'ai décroché au bout d'un moment sans devenir bon, hein. Je pense que j'ai appris tous les langages sur Code Academy et je savais toujours pas faire un site. C'est quoi la différence au wagon pour toi?
En fait, le problème du en ligne, des trucs comme Codecademy, c'est des cours sur plein de langages séparés. Donc, quand tu le fais indépendamment, et souvent, c'est des petits exercices où c'est dans ton navigateur, donc c'est pas dans un environnement de code qui est celui qu'un développeur a vraiment. Et on va te dire de remplacer un plus par un moins, d'appuyer sur un bouton, et puis tu vas voir que ton test est vert et que ça marche bien. Et puis tu vas passer à l'exercice d'après. Et en fait, donc, t'apprends des langages comme ça. Mais tu les apprends pas vraiment, t'apprends pas à programmer puisque jamais on te donne une page blanche en disant fais ça. On donne jamais des énoncés un petit peu de la vraie vie en essayant de te faire un programme. On donne des bouts de code et on te fait remplacer des plus par des moins. Donc c'est le premier truc. Donc en fait, ça t'apprend pas à coder. Ça t'apprend des éléments de syntaxe sur différents langages. Et l'autre truc, c'est que tous ces langages, tu sais pas tellement comment ils s'articulent. Donc ça permet pas derrière de construire des applications parce que quand tu construis une application web, ça va de ta base de données à ton navigateur. Et ça va ça met en jeu plein de technologies différentes qu'il faut savoir comment elles se connectent aussi, quoi. Donc c'est un peu le problème de ces trucs genre Codecademy ou Code School, c'est que c'est bien pour connaître des syntaxes, C'est bien pour des gens qui sont déjà des développeurs et qui veulent vite apprendre des éléments de syntaxe sur des nouveaux langages, mais qui ont déjà une maîtrise, en fait. Mais pour quelqu'un qui débute, bah, tu vois pas, t'as pas la big picture, t'as plein de connaissances de syntaxe, de plein de langages. Et presque, c'est anxiogène parce que ça donne l'impression que il faut limite apprendre encore plein de langages et qu'il te manque, t'as des trous.
Moi, je les ai tous appris. Hein,
voilà, mais en fait, c'est ça, ce syndrome de tout apprendre. C'est normal, c'est que si tu débutes, quand tu commences à programmer, c'est comme toutes ces questions. Est-ce qu'il faut que je fasse du JavaScript, du Python, du Ruby? En fait, les gens qui commencent à programmer, enfin, qui sont débutants, ils se posent plein de questions et ils sont un peu angoissés. Et ils ont l'impression que c'est en amassant plein de tutos dans plein de technos que petit à petit ça va combler ça leur donnera la big picture, alors que c'est pas ça, en fait. C'est pas,
mais parce qu'il y a toujours quelqu'un qui te dit ah mais t'apprends Ruby, tu devrais apprendre Python.
Exactement. Et ça en tant que débutant, en plus si c'est quelqu'un sur lequel tu mets une autorité, enfin qui a de l'autorité parce que c'est un développeur, c'est très puissant, quoi. Ça va vraiment te dire bah non, je suis en train d'apprendre, faut que j'apprenne ça. Mais le vrai truc, quand t'apprends vraiment, quand tu fais deux mots wagon, t'apprends qu'en fait, seul compte les concepts et qu'il faut faire un choix. Alors nous, c'est Ruby, mais ça pourrait être, si tu faisais du Python, ça serait bien aussi. Tu fais un choix, t'apprends bien les concepts en faisant ce choix de langage et qu'après, les concepts sont les mêmes sur d'autres technologies, quoi. Ça, c'est une approche qui est plus saine.
Puis vous êtes en train de créer une communauté. Hein. Déjà, ça commence au moment où vous faites travailler les gens ensemble. Moi, j'avais trouvé ça vachement intéressant quand j'étais venu de voir que vous mettiez les gens par paire chaque jour,
ouais.
Sans leur demander finalement, parce que le problème, encore une fois dans les études, c'est qu'on se fait vite un groupe de potes avec qui on reste et avec qui on va faire tous les travaux ensuite.
Ouais.
Et je trouve qu'il y a un côté positif au fait d'être obligé de travailler avec des gens différents.
Ça, c'est marrant parce que chaque jour après le cours du matin, les élèves ils vont travailler sur des exercices sur une plateforme et la plateforme te donne la photo de ton buddy, on appelle ça des buddies, la personne avec qui tu vas travailler, et c'est tiré aléatoirement tous les jours. Et en fait, c'est un truc qu'on voulait absolument avoir pour créer effectivement des échanges et pour que tu bosses avec ça te force à bosser avec des personnes différentes, donc parfois un peu moins fortes auxquelles il faut expliquer, parfois plus fortes qui vont te montrer peut-être des trucs un peu avancés et te tirer vers le haut. Et ce qu'on avait commencé par faire, c'est dire aux gens de se mettre par binôme et leur dire chaque matin presque, c'est hyper important de binômer, essayer de trouver un nouveau binôme. Et ça marchait pas. Pendant les quatre premières promos, ça marchait pas. Et à partir du moment où on a dit, bon, bah, vas-y, y en a marre, hein, ils binôment pas, c'est chiant parce qu'il faut qu'ils binôment. Et on a juste dit, bon, on va mettre les photos en haut dans la barre de navigation de la plateforme. Nous, on va forcer des photos. Et bah, la promo sur laquelle on a fait ça, les mecs, naturellement, ils cherchaient des yeux le matin et ils travaillaient ensemble, quoi. C'est assez marrant, c'est le fait de forcer quelque chose. Ça marchait bien mieux que faire des grands discours sur il faut absolument que vous binomiez pendant ces deux mois, quoi.
Parce que du coup, vous avez des équipes qui se sont créées au wagon. Des types qui ont monté des boîtes ensuite, qui s'étaient rencontrés au wagon. Des types qui ont lancé des projets, qui s'étaient rencontrés au wagon.
Ouais, il y a plein d'équipes et sur des startups actuelles où les mecs se sont rencontrés au wagon, quoi. Ou les mecs ou les filles.
Et maintenant, vous êtes en train de créer un peu une communauté autour du wagon. Vous avez votre plateforme Alumni, où vous postez des ressources. Les gens communiquent, vous commencez à poster des jobs maintenant. C'est quoi comment tu vois ça évoluer, toi?
En fait, j'ai l'impression que la communauté du wagon, quand tu fais un bootcamp, enfin, nos concurrents, ils sont très axés shop à un boulot de junior développeur. Alors, c'est un truc auquel tu as accès quand tu fais le wagon, parce que le curriculum, il est très exigeant et il va très loin. Donc, c'est un truc que tu peux faire. Mais on a aussi beaucoup de gens qui sont des entrepreneurs, qui veulent faire un petit peu comme toi, finalement, qui veulent faire du freelance, faire des projets personnels, faire de l'entrepreneuriat, du coup, peut-être être un peu prof ou teaching assistant pour nous, qui veulent un peu panacher leur vie avec plusieurs activités et être indépendant, quoi, pouvoir voyager. Et du coup, l'idée, moi, ce que j'aimerais bien qu'on mette en place, c'est vraiment, c'est en train de se faire, mais autour des écoles, puisque quand t'as des écoles en physique, c'est des lieux où les gens peuvent travailler et pas forcément que les élèves de cette ville-là. C'est créer un écosystème qui donne un cadre à ces gens qui veulent freelancer, être prof, continuer à bosser sur leurs projets.
Est-ce que vous avez créé des vocations un peu avec le wagon? C'est-à-dire des mecs qui arrivaient, qui voulaient juste, ou des filles, hein, qui voulaient juste apprendre à coder au départ, par curiosité un peu, et qui se sont retrouvés à vraiment aimer ça, à devenir développeur, à finalement trouver une nouvelle voie?
Bah ouais, enfin moi je te prends des exemples assez proches. Ma copine elle bossait dans l'édition, donc rien à voir. Elle était assistante d'édition à l'Olivier et puis chez Actes Sud ensuite, donc elle réécrivait des bouquins avec les auteurs avant qu'ils soient publiés, et elle a fait des études de lettres et elle a fini par faire le wagon, non pas parce que je l'ai saoulé avec ça, parce qu'elle trouvait que le milieu de l'édition était un peu en train de mourir et il n'y avait pas en plus de place, enfin c'était un peu saturé. Et là, elle est développeuse. Elle développe des applications Rails dans une agence. Et elle adore ça dans le sens où elle trouve ça hyper intéressant de construire des choses. Alors qu'avant, elle avait un métier au fait où, certes, tu bosses sur des livres, donc c'est quand même assez concret, mais elle avait pas l'impression de construire des choses, quoi. C'est le truc très cool de la programmation.
Du coup, maintenant,
Alice,
sur la
Alice
même chose.
Qui bosse, qui est développeur back-end là chez Save, c'est quand même une fille qui a fait le SCP à la base, qui était que rien ne destinait forcément à être développeuse, quoi. On a beaucoup de filles qui deviennent développeuses, en fait. Alors, elles sont généralement, les filles ont assez peur de faire le wagon. On a quand même plus de, faut pas se mentir, on a des classes qui sont assez masculines. Et généralement, les filles, parfois, elles s'inscrivent, mais ensuite, au dernier moment, elles hésitent. Enfin, elles hésitent beaucoup plus que les mecs de façon générale. Mais à la fin du programme, c'est aussi ce qu'on constate, c'est qu'il y a pas mal de filles qui deviennent développeuses, quoi. Plus peut-être que les garçons.
Alors maintenant, depuis pas mal d'années, la mode est vraiment à l'entrepreneuriat, notamment chez les étudiants des grandes écoles, etc. Est-ce que tu penses vraiment qu'il faut savoir coder pour être entrepreneur?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Parce que c'est la grande question des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ouais. C'était ma grande question aussi, je pensais qu'il fallait que... je pensais que je pourrais jamais rien faire si je savais pas coder.
En fait, je vais pas dire oui parce que je pense pas que ce soit très très honnête. Ça dépend de quel type de produit tu veux lancer déjà. Est-ce que c'est un produit à forte composante technique ou pas? Si c'est sur un projet qui est tech, pour moi c'est quand même un prérequis puisque tu peux pas te lancer dans un truc sans comprendre comment ça fonctionne.
Tu peux pas juste prendre un CTO et puis tu le laisses faire la tech et puis toi tu fais...
Non, t'as besoin d'avoir un regard, t'as besoin d'un peu de savoir où va ton produit, ce qu'il est possible de faire, avoir une vision un peu, une maîtrise de ton produit, quoi. Donc sur des produits très tech, tu vois par exemple Kudoz, le truc d'Olivier, c'est assez technique comme produit.
Kudoz, c'est le Tinder des job search un peu.
Ouais, c'est une plateforme sur laquelle plein d'entreprises peuvent poster des annonces et en fait toi tu te connectes avec LinkedIn et ça va, il y a un petit algo qui va tourner, qui va te pousser des offres. Pas forcément exactement de ce que tu fais actuellement, mais tu vas pouvoir accepter ou refuser en swipant. Et il y a un algo derrière, il y a une API, il y a une plateforme pour les ressources humaines des boîtes pour qu'elles puissent poster des... Donc c'est assez complexe, il y a toute une architecture, c'est pas un seul produit, c'est plein de produits qui sont connectés. Si t'as aucune connaissance de ce que c'est qu'une API, comment fonctionne un site web, je pense que c'est un peu compliqué, quoi. T'as aucun contrôle sur ce que tu fais, quoi. Après, sur des business plus, je sais pas si tu veux lancer... un restaurant de fish and chips, ouais, je pense que tu peux s'en sortir sans faire un...
Mais de manière générale, tu penses qu'il faudrait qu'il y ait du... le truc est un peu cliché, mais du code à l'école ou des bases de web?
Ouais, en fait, le...
Parce que de moi, depuis que j'ai appris ça, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose d'ultra essentiel.
En fait, c'est le... Je sais pas si tu te rappelles, on avait des cours de technologie. Enfin, je sais pas, peut-être...
Ouais, moi, j'ai fait des classeurs.
T'es peut-être un peu jeune pour ça, mais moi...
Non, j'ai fait des classeurs et des classeurs en PVC avec des rivets.
Ouais, bah moi, j'avais soudé des circuits imprimés pour faire des petites lampes, une lampe de poche toute bête.
Ah, mais c'était avancé quand même.
Je me rappelle aussi, tu passais une semaine à écrire ton prénom en lettres normalisées, là. Tu tirais des traits et il fallait que t'as pas fait ça.
C'est quoi les lettres normalisées?
Bah, je sais pas, c'est le B de Boris, il doit respecter des proportions très précises, donc tu tires plein de traits et ensuite t'essayes de...
Moi, je suis nul en écriture.
Bon, c'était des trucs un peu d'ingénieur à l'ancienne. Mais donc, t'avais ces cours de techno, qui, honnêtement, tout le monde rigolait au cours de techno. Enfin, c'était le truc que t'avais déjà 12 ans, tu trouvais déjà que ça servait à rien, quoi. Enfin,
ouais, ça, je me souviens.
Et à part, il y avait des gens qui avaient la fibre, mais franchement, c'était de la rigolade, quoi. c'était vraiment le cours le moins estimé.
J'ai passé des heures à percer des trous dans des circuits imprimés.
Voilà, c'est ça, tu faisais vraiment de la merde, quoi. Mais pour autant, le cours de techno, c'est intéressant parce que ce qui devrait être aujourd'hui, c'est un cours d'éveil à ce que c'est qu'Internet, comment ça fonctionne, enfin, et un peu, pas forcément le code. Tu vois, moi, je pense que, enfin, jeune, hein, tu vas pas faire coder des programmes ou des algos à des jeunes, mais juste les éveiller à comment fonctionne tout ça, écrire des petits programmes, peut-être, mais un peu d'acculturation, quoi. Donc, ça serait intéressant que le cours de techno devienne un cours qui te familiarise à tout ça.
Ouais, parce que moi, j'ai eu mon premier cours sur Internet. Enfin, on m'a parlé d'Internet pour la première fois à l'école en 2013. Donc, j'avais déjà 21 ans.
Ouais, bah, moi, c'est pareil, hein. Des trucs tout cons comme le modèle client-serveur, enfin, juste ça, on t'en parle. Et puis parfois, c'est abordé de façon très pompeuse, alors que c'est très simple au final.
C'est. Ça dépend, quoi.
Même, tous ces trucs-là, API, base de données, c'est des mots qui font peur.
Hein. C'est le langage, en fait, qui est une barrière à l'entrée, ouais.
Mais t'as l'impression que derrière, il y a des concepts extrêmement compliqués. Moi, j'ai des potes qui ont fait peut-être des tests de maths hein, et qui me disent « Putain, mais je suis largué, je pourrais jamais rattraper la caravane du web ou quoi que ce soit. »
Il y a ce sentiment-là qu'on pourra jamais rattraper. Ouais, en fait. C'est pour ça qu'on se lance pas.
En fait, t'as envie de leur dire « Mais attends, t'as déjà fait des trucs si compliqués et que c'est juste une somme de connaissances à avoir, mais c'est vraiment pas la mer à boire. » Et d'ailleurs, le principe du wagon, c'est d'aller chercher toutes ces connaissances qui sont un peu variées dans... Enfin, si tu veux te former tout seul aujourd'hui sur Internet, ce qui est compliqué, c'est que toutes ces connaissances, elles sont disséminées, elles sont éparpillées, et il va falloir, toi, reconstruire un peu le chemin logique. Et ça, c'est dur, en fait. Tu vas passer vachement de temps à le faire. Hein. Donc, le truc du wagon, c'est de prendre toutes ces connaissances, de les mettre dans le bon ordre et de les condenser sur 2 mois.
D'ailleurs, vous avez aussi ça en cours en ligne, puisque vous avez lancé un programme de cours en ligne.
Sur des verticales, donc soit juste coder un site vitrine ou coder une application Rails, faire de la data science et analyser des données en jouant avec des API, tout ça. Donc ouais, sur différentes verticales, on a fait des parcours en ligne sur On Demand.
Finalement, c'est quoi pour toi le plus gratifiant dans le fait de faire le wagon ?
Bah, clairement, quand t'es dans l'éducation, ce qui est hyper gratifiant, c'est que tu sais, ce qui est écrit sur la homepage du wagon, c'est change your life, learn to code. Le wagon brings technical skills to creative people.
Yeah.
Bah, le change your life, ça fait très startup qui veut changer la vie des gens en livrant des fraises. Enfin, c'est très caricatural. Exactement, c'est assez caricatural. Hein. Mais en pratique, quand tu fais de l'éducation, vraiment, tu changes des parcours, quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir changé la vie de ma petite amie, d'avoir changé la vie de pas mal de personnes.
Maintenant, c'est bien parce que vous pouvez parler tous les deux de la même chose. Quand vous rentrez chez vous.
Ouais, on essaie de pas le faire, mais. Et en fait, ouais, je sais pas. Ça, je trouve, c'est le côté sympa. Après, aussi, t'as.
Ouais. Le côté relou, c'est ça ?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais pas si tu changes toujours en bien ou en pas bien. Ça se trouve. Parce qu'il y a des entrepreneurs aussi, il y a le piège de la technique, c'est que. Peut-être que ça nous est déjà arrivé d'avoir des anciens élèves hein, qui, peut-être, étaient piégés par le fait qu'ils savaient maintenant faire plein de choses. Et au lieu de se dire, bah, je vais y aller de façon itérative, de façon comme un entrepreneur, bah, je vais me lancer sur mon projet en ayant de grandes ambitions parce que je peux maintenant faire plein de choses avec le code. Et peut-être qu'ils ont perdu du temps à cause de ça. Enfin, tu vois, il y a le côté.
Donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent lancer leur projet
Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est très bien d'avoir les compétences tech parce que du coup, ça te donne aussi. Quelqu'un qui maîtrise le code, il va pas se dire je vais tout le temps coder normalement. S'il a bien compris les messages que nous on transmet, c'est aussi si je peux gagner du temps, réutiliser des outils qui existent déjà, des outils SaaS, et que je peux essayer de prototyper un truc, je vais le faire. Hein. Mais je suis armé. Dès qu'il va falloir un peu monter en compétence, je vais pouvoir moi-même commencer à coder quelque chose, et après je pourrais bosser avec quelqu'un. Mais le piège du code, c'est de te dire comme je sais faire des choses, et ben je vais me lancer dans une machine dans une machinerie complexe et essayer de faire le produit définitif que je veux faire, quoi.
Est-ce que vous avez eu des gros fails au wagon?
Des gros fails pendant le wagon ou après de boîtes qui sont lancées et qui ont pas marché?
Non, vous, dans votre boîte. Dans la manière dont vous, dans la boîte marche.
Ah, est-ce qu'on a eu, on a déjà fait des, ouais. Ouais, on a eu des gros fails, pas énormes, mais on a, par exemple, on avait fait un surf camp. Hein, donc, c'est pas un gros fail, mais on avait fait un surf camp. On partait 2 semaines dans le sud-ouest pour coder, surfer, apprendre aux gens à coder et en même temps surfer dès qu'il y avait des vagues. Et en fait, c'était un truc où on en parle encore. Il y a même des journalistes qui nous appellent de Elle pour nous dire « Ah, c'est vous qui faites du surf et du code comme si c'était le seul truc qu'on faisait alors que c'est un truc qu'on a fait 2 semaines. »
C'est un bon coup de marketing.
En fait, ouais, c'est au niveau marketing, les gens nous identifient encore comme les mecs qui ont fait du surf et du code. Mais en revanche, c'était une horreur à vendre parce que c'était... 2000 euros, et encore 2000 euros, c'était presque parce que on avait une surf house que des Suisses allemands nous louaient 20 000 balles pour les deux semaines. Donc en gros, ça coûtait une blinde. On devait payer en amont, et ensuite on a eu du mal à le vendre parce que en fait, les gens avaient beau trouver ça cool, ils disaient c'est bizarre quand même. Deux semaines, 2000 euros pour surfer et coder, même si tout est compris, les cours, la bouffe, bah quand même, je préfère peut-être partir en vacances quoi. Est-ce que c'est des vacances? Est-ce que c'est du code? Enfin, c'était pas compréhensible.
En fait, le positionnement était pas clair.
C'est exactement. Ça le positionnement était pas très clair. Et du coup, on a galéré à vendre ce truc. C'était très marrant au final. On
est parti. Vous êtes parti à 20 ou vous êtes parti à 5?
On est parti avec des mecs très. Enfin, c'était délirant. Il y avait Martin Mignot qui est investisseur chez Index à Londres. Il y avait Pierre Munier qui a lancé une boîte qui s'appelle WeSlash, là, ouais, qui est en train de marcher pas mal. Donc il y avait des mecs comme ça. Il y avait un mec qui était en thèse de maths qui venait de Marseille. Il y avait Jean-Élie qui est développeur iOS chez Drivee qui voulait se mettre à faire du Rails. Donc tu avais des développeurs très très aguerris, des mecs comme Pierre qui est encore en école, des investisseurs, Martin qui était investisseur. Enfin, tu avais vraiment les gens qu'on a eu, ça reflétait bien que le produit était pas du tout positionné quoi. Tu vois, c'était n'importe quoi les gens qu'on a. Mais c'était très cool.
Finalement, hein. C'est un bon souvenir. Et puis si vous avez
très bon souvenir, c'est juste que là on repart par exemple demain.
Ouais.
On va faire les mêmes photos, enfin ce sera aussi du surf et du code, mais juste on part avec l'équipe.
Ouais.
Et c'est plus simple quoi. Et au final, le surf camp, on l'a fait à perte, mais bon, c'est pas un gros fail, c'est juste, c'était beaucoup d'énergie. C'est comme on avait fait des semaines en physique d'iOS ou de front. On avait commencé à essayer de faire des formats plus courts parce que tout le monde nous disait 2 mois, j'ai pas 2 mois. Est-ce que vous faites des trucs plus courts? Et pareil, c'est des trucs qui sont vachement durs à vendre. On s'est retrouvé avec des classes de 10 en poussant vraiment au niveau vente. Et bon.
Est-ce que toi, il y a eu des moments où tu t'es dit que t'en avais marre et que t'avais envie d'arrêter le wagon? Ou vous avez douté de la boîte et vous êtes dit...
Non, je pense qu'il y a... Il y a quand même... C'est pour ça qu'on fait que 4 promos par an. C'est que honnêtement, si on faisait 6 promos par an, il y a quand même un côté répétitif. Et parce que c'est toujours le même programme. C'est le problème des profs. Hein. Quand t'es prof de maths, en terminale, tu vas faire... Enfin, t'attends que le programme change, mais tu vas faire la même chose tous les ans. C'est pour ça qu'on fait que 4 promos par an avec des mois de trous pour garder une énergie et vraiment une, tu vois, d'être honnête dans ce qu'on fait et dans l'énergie qu'on met. Là, ça va, on commence à se faire. Il y a des nouveaux profs à Paris, la classe commence à être gérée. Mais ça commençait à être limite, tu vois. J'avais fait, 10 promos à Paris avec les mêmes cours. Hein. Heureusement que là, il y a de nouvelles générations de profs qui sont arrivées, qui ont été formées, parce que je commençais au stade où tu t'ennuies un petit peu à faire tes cours. Et ça, c'est pas bon, parce que tout le truc du wagon, c'est d'être dans la passion aussi, quoi.
Parce que là, vous étendez beaucoup le wagon. Vous l'avez mis dans plusieurs pays, au Portugal, à Londres.
Ouais.
Londres, c'est pas un pays, mais c'est la capitale de l'Angleterre. Donc, c'est quoi la vision pour toi, c'est de faire une licence?
Il y a des villes qui fonctionnent en franchise. Il y a des villes qui fonctionnent en franchise, pas toutes. Londres, par exemple, c'est un endroit où on va nous en propre. Quelqu'un qui monte une franchise, de toute façon, il doit faire le wagon avant. Ses profs, ils doivent être préparés par nous et ensuite aller même donner des cours dans une ville qui tourne pour expérimenter le programme et le format. Donc c'est une franchise, mais où c'est pas comme un McDonald's où tu sais on te donne ton grill, hein, on te met ton M sur ton, tu vois, on met le M de McDo et puis on dit bah voilà, maintenant je te prends X% de ton chiffre d'affaires et tu te démerdes, tu fais cuire tes hamburgers. C'est un peu, moi j'ai l'impression qu'en pratique les franchises du wagon, ils sont sur le même Slack, j'ai l'impression qu'on bosse tous ensemble quoi.
Okay, et toi ton job finalement maintenant c'est plus de manager ces trucs
là ouais, c'est de faire, là en ce moment c'est de faire, moi je suis je suis dans l'exécutif, je suis CEO, donc je dois m'assurer que l'exécution, que ça avance, quoi, que les chantiers avancent. Donc, j'essaye de lisser tous les process sur la formation des profs, trouver des profs, essayer de faciliter, parce que c'est toujours difficile pour des villes qui se lancent de trouver tous les profs pour faire leur premier batch. Donc, j'essaye de coordonner un peu tout ça et de trouver des solutions, de former des nouveaux profs, de leur proposer de partir dans une ville, ce genre de choses. Donc, ça, c'est le côté plus gestion des profs. Au niveau marketing aussi, toutes les villes ont des besoins en fait, donc il faut leur expliquer qu'on a une stratégie qui est basée sur des workshops qu'on fait sur Meetup. Enfin, on a documenté plein de trucs, mais faut qu'ils déroulent la stratégie comme toi tu l'as pensé. Et puis derrière, ils ont des besoins différents. Lisbonne, ils s'appuient pas seulement sur le marché local, ils ont envie d'attirer un peu des gens de toute l'Europe, des anglophones, parce que c'est une ville qui est très attractive, il fait beau, le coût de la vie est assez bas et tout ça. Et du coup, les workshops, c'est pas suffisant forcément pour eux. Ils vont avoir des besoins marketing différents. Donc là, c'est aussi jouer un peu avec tous ces besoins marketing de toutes ces villes, quoi. Là, on lance ça au Brésil, par exemple. C'est un marché complètement différent, tu vois. Il y a des... Il y a une façon... Enfin, je pense qu'il faut adapter le marketing selon le marché dans lequel tu vas.
Ok. Et c'est, du coup, c'est quoi? T'aimerais bien que ce soit quoi le wagon dans 5, 10 ans?
Voilà, moi, j'aimerais bien... Alors, le premier... Le programme de 2 mois, pour moi, c'est un... Non, pas vraiment. Le programme de 2 mois, pour moi, c'est un programme d'accélération. On accélère des gens en leur faisant gagner, grosso modo, 2 ans, parce qu'on a mis bout à bout plein de cours de qualité qui couvrent toutes les technologies d'une application web. On leur a appris à faire des produits. À partir de là, ce programme, on est en train d'essayer de le dupliquer de le mettre dans plein de villes. Et maintenant, il faut le stabiliser dans toutes ces villes pour que ça tourne bien, que les équipes de profs, elles soient posées. Donc ça, c'est ce qu'on fait en ce moment. Mais derrière le programme d'accélération, pour moi, c'est une toute petite brique de ce que le wagon est, qui est le wagon, c'est véritablement une communauté européenne et pourquoi pas mondiale si le Brésil s'apprend et qu'il y a d'autres, mais on focus sur l'Europe principalement. Et après, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est la brique d'après, c'est fournir un écosystème pour des gens qui veulent freelancer, qui veulent bosser sur leur projet entrepreneurial, leur donner un écosystème de travail basé sur le wagon, quoi, sur le réseau du wagon.
Il y a des boîtes ou des personnes qui t'inspirent en France ou dont t'essaies desquelles t'essaies de prendre exemple?
Nous, on a été 2 ans chez The Family, on sous-louait. On n'était pas dans le portefeuille de The Family, mais on sous-louait le deuxième étage.
Ouais, je me souviens.
Au tout début. Donc, quand ils
sont chaud, là.
Quand ils s'installaient rue du Petit Muscle. Et fatalement, c'est des gens qui ils font beaucoup de choses en termes de communication, ils testent plein de trucs. Donc, ça infuse un petit peu. Alors, tu fais pas tout ce qu'ils font ou quoi que ce soit, mais c'est juste, ça te donne. Ils sont toujours, comme ils testent plein de trucs tout le temps. Ils te poussent à tester un peu des choses, quoi. Parfois, quand tu t'endors un peu, tu vas dire, tu vas voir, ah, ils ont lancé, il y a cette famille qui vient de lancer Lion et je sais pas quoi. Toi, tu te dis, enfin, ça te titille en mode, bon, faut que je reste un peu vivant, moi aussi, faut que je teste des... Donc, plus en termes d'énergie, quoi. D'avoir des gens qui testent plein de trucs et qui te réveillent un peu quand tu aurais peut-être tendance à commencer à t'endormir.
Parce que sinon, tu trouves qu'on s'endort un peu?
Tu t'endors pas, mais c'est comme tout est compliqué quand t'es entrepreneur, t'as tout le temps des problèmes. Enfin, lancer des villes, c'est des problèmes. On a eu des... Bah, je te raconterai pas, mais on a eu des fails.
Tu veux pas me raconter tout ça?
On a voulu ouvrir à Los Angeles. On s'est fait un fail énorme, on s'est fait troller sur Reddit parce qu'il y a eu un mec qui a mal communiqué. Enfin, avec 100 000 mecs qui nous détestaient.
Parce que les cours étaient mauvais.
À Beyrouth, on a fait le premier batch et en fait, il y avait des élèves qui avaient signé un accord pour bosser pour des boîtes d'un fonds. Ils étaient financés par un fonds libanais. Et finalement, après la formation, ils n'ont pas honoré du tout leur contrat. Ils sont barrés. Donc, tu as toujours des trucs... tu as toujours des... Tout est compliqué, quoi. Rien ne se passe comme tu penses que ça va se passer. Il y a toujours des petites galères. Surtout quand tu fais de l'humain avec des programmes de 2 mois où tu vis avec des gens, etc. Enfin, où tu es 24 heures sur 24 avec des gens. Donc, c'est pas que tu t'endors. Hein. C'est que tu as tellement de trucs compliqués à gérer. C'est que parfois, tu t'oublies où tu vas. Tu t'oublies d'être visionnaire un peu et de voir c'est quoi les... Ok, bah, c'est pas grave, c'est normal, on a des problèmes. Mais les chantiers, c'est des problèmes sur les chantiers en cours. Hein. Mais c'est quoi les nouveaux chantiers, quoi?
Donc, parfois, tu pars. C'est pour ça que tu fais des vacances avec ton équipe. Pour pouvoir prendre
ouais,
un peu de recul.
Pour pouvoir prendre du recul et dire ok, bon, bah, ouais, on est tous pris parce qu'il y a 40 élèves tout le temps. C'est aussi ce qui est compliqué au wagon, c'est que on vit. Enfin, on est une école, donc il y a toujours 40 entrepreneurs et 10 teaching assistants qui sont des anciens élèves. Donc tu travailles dans un cadre où il y a 50 personnes hyper motivées, en plus parce que c'est des entrepreneurs qui sont en train d'apprendre à coder, qui sont pleins d'optimisme, de passion, tout ça. Et du coup, tu perds vite le focus sur ce que tu es en train de faire.
Bon, ben, du coup, dernière question. Qu'est-ce que tu ferais si tu faisais pas le wagon? Si le wagon, ça crachait aujourd'hui? Lamentablement.
si
tu devais tout recommencer.
Mais moi, ça me dérange. Enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais ça me dérange pas. Disons que c'est assez gratifiant l'expérience du wagon pour me dire. Bon, évidemment, j'aimerais bien quand même pouvoir me retourner. Mais si ça me donnait un petit pactole, mais pas. Je te parle pas de millions de dollars, juste de quoi faire un nouveau projet tranquillement pendant les 6 prochains mois. Enfin. Disons que le wagon, pour moi, c'est assez gratifiant à l'étape où je suis. Je m'en fous si on le revend pas à 50 millions ou quoi que ce soit.
50 millions is not cool.
50 millions, moi, c'est ma... Tu sais, tu mets toujours un prix sur ce que tu fais.
Ouais.
Bah, moi, c'est 50 millions. C'est absurde, hein, ça sort de nulle part.
Ouais, j'avais entendu. J'avais vu les mecs de Sunrise à New York qui disaient que c'était 100 millions.
Bah, ouais. Mais en fait, je sais pas, c'est un truc... C'est un truc, c'est absurde, parce que le wagon, ça vaut pas du tout ça. Mais c'est juste... c'est parce que de toute façon t'as pas envie de vendre, donc c'est un truc où tu dis bah voilà, ouais. Pour moi ça vaut, c'est peut-être un truc d'ego aussi. Qu'est-ce que je ferais? Je pense que j'essaierais peut-être de, j'ai quand même plein de potes ingénieurs qui sont des mecs, des grosses stars et tout ça, j'essaierais peut-être de me mettre sur un nouveau produit très très technologique, quoi. Très ingénierique en fait, retourner un peu à mes premiers amours avec de l'ingénierie et des maths, mais avec maintenant une bonne compétence sur du produit et sur du web, et me maquiller avec des, mais je sais pas du tout pourquoi, mais un truc très 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 technique.
Finalement, au bout d'un moment, t'as craqué, t'es parti de banque et t'as monté une boîte. Est-ce que tu conseillerais à tous les étudiants d'essayer de monter une boîte au début, avant de sortir de l'école ou en sortant d'école?
En fait, non, je conseille pas ça du tout. Parce que, en fait, faut pas se mentir. Moi, j'ai pu monter le wagon parce que j'étais aux ACDIC et que ça me permettait de lancer ma boîte. Hein. Je pense que c'est une mauvaise foi de dire que tout le monde peut devenir entrepreneur ou lancer sa boîte. Bah, quand t'as pas d'argent, ni de papa, ni de maman, ni des ACDIC, et bah, c'est pas vrai, tu peux pas.
Ou ça m'a marre de The Family, il dit anyone, not everyone.
Ouais. Bah, c'est ça, pour moi, c'est, faut faire attention à ça. Donc, je dirais pas à n'importe qui de faire ça. Si t'as la chance, en France, d'être diplômé d'une bonne école, ce qui, en fait, est une garantie de trouver du boulot, faut pas se mentir, les recruteurs, ils regardent, en gros, si t'as une bonne école, t'as pas de risque trop de pas trouver de boulot. Et que tu t'ennuies dans ce que tu fais, t'as pas d'excuse à pas essayer de faire quelque chose, quoi. Alors, ça peut pas forcément monter une boîte, mais en tout cas, bosser dans une petite structure qui est peut-être plus stimulante, dans une petite start-up qui se lance et où les mecs vont donner plus de responsabilités. Donc, pas forcément de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une tendance, ça a un peu gonflé ce truc de tout le monde veut être entrepreneur, et j'ai l'impression que la trend maintenant, c'est plus, je vois plus en plus de gens qui veulent plus rejoindre des boîtes. Des boîtes qui sont en train de monter.
Il y a des petits projets sociaux aussi, j'ai remarqué pas mal. Les trucs du style Data for Good.
Ouais, il y a des trucs sociaux, il y a beaucoup de trucs autour des nouvelles façons de travailler. Le freelance, tu vois, freelance, c'était un mot qui était has-been, hein, on va dire. Ouais. Quand tu disais freelance, hein, ça sonnait vraiment has-been, hein, quand tu disais ça il y a un an. Et aujourd'hui, le freelance a vachement regagné ses lettres de noblesse, tu vois. C'est revenu un terme un petit peu hype alors que c'était un terme complètement has-been.
Et est-ce que c'est pas parce que la tech est entrée dedans?
Non, c'est parce qu'en fait, moi je me rends compte que les générations d'élèves qu'on a, de plus en plus, ils s'en foutent ils sont moins carriéristes dans le sens où ils veulent pas chercher un gros salaire dans une grosse boîte de consulting. En revanche, ils prêtent beaucoup plus d'attention à leur mode de vie, à continuer à apprendre, à des valeurs comme ça. Et donc le freelance, ça résonne bien avec ça parce que t'es indépendant, tu continues à apprendre. Mais pour donner un exemple, on a essayé de recruter quelques-uns de nos élèves en CDI ensuite, soit sur des boulots de design, de front-end ou d'autres boulots. Et c'est assez étonnant parce que tu leur proposes un très bon poste, hyper intéressant, avec une bonne équipe qui va bien les encadrer. Et en fait, en face, presque, les mecs te disent « Bah, je préférais qu'on débute en freelance, en fait. » Tu vois mais encore une fois, je parle d'une catégorie qui a le pouvoir de faire ça, mais c'est marrant. C'est un peu l'anti-CDI, quoi. T'as beau en fait, ils veulent pas s'engager vraiment, quoi. Ils veulent garder une indépendance.
Ouais, je pense qu'il y a une peur de se bloquer dans un environnement ou de pas pouvoir être complètement flexible. Surtout quand t'as des compétences que tu peux appliquer à beaucoup de boîtes différentes.
Mais ça, c'est quand même une tendance qu'on voit, nous, même juste à l'échelle du wagon depuis 2 ans. On a des élèves qui sont de plus en plus dans cette trend de dire, bah non, moi, je veux faire un peu de freelance, un peu continuer à bosser sur mon projet en parallèle. Du freelance, comme ça, je vais continuer à exercer un peu, à faire de la technique et à continuer à apprendre mon projet à côté. Peut-être un peu de prof pour le wagon de temps en temps parce que ça me permet de réexpliquer des choses. Et en fait, je pense qu'il y a un bon mariage, il y a une bonne alchimie dans ça que nous, on aimerait bien reproduire dans toutes nos villes, quoi.
Pour les gens qui écoutent ça, s'ils doivent te trouver quelque part, où est-ce qu'ils doivent te trouver?
Ils peuvent me trouver au 16 Villa Godelet, au wagon. Je suis à peu près toujours là.
Oui, ou sur le site du wagon.
Sur le site du wagon, ils peuvent me trouver dans...
C'était hyper mal formulé. Ça faisait genre, où est-ce qu'ils peuvent te trouver pour te péter la gueule?
Bah, ils peuvent me trouver... Moi, j'ai un compte Medium sur lequel j'écris des choses. C'est Papillard, PAPI2LARD. Et puis sinon, sur le site, il y a mes informations sur le site, mon Twitter, toutes mes informations, quoi.
Ok, bah trop cool. Merci beaucoup Boris d'avoir pris le temps.
Et bah avec plaisir.
Bonne journée.
À bientôt.
Enfin, bonne soirée, on s'en fout. Ah ouais. On est sur Internet.
Yes. Salut.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.